Physiquement, elle traversait une mauvaise phase. Elle épaississait. Et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois, semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à Swann au moment, pour ainsi dire, où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu, et ne le retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait, toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swann pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Puis, il regardait des photographies d'il y avait 2 ans. Il se rappelait comme elle avait été délicieuse. Et cela le consolait un peu de se donner tant de mal pour elle. Quand les Verdurin l'emmenaient à Saint-Germain, à Chatou, à Melun, souvent, si c'était dans la belle saison, il proposait, sur place, de rester à coucher, de ne revenir que le lendemain. Madame Verdurin cherchait à apaiser les scrupules du pianiste dont la tante était restée à Paris. « Elle sera enchantée d'être débarrassée de vous pour un jour. Et comment s'inquiéterait-elle? Elle vous sait avec nous. D'ailleurs, je prends tout sous mon bonnet. » Mais si elle n'y réussissait pas, M. Verdurin partait en campagne, trouvait un bureau de télégraphe ou un messager et s'informait de ce des fidèles qui avaient quelqu'un à faire prévenir. Mais Odette le remerciait et disait qu'elle n'avait de dépêche à faire pour personne, car elle avait dit à Swann une fois pour toutes qu'en lui en envoyant une aux yeux de tous, elle se compromettrait. Parfois, c'était pour plusieurs jours qu'elle s'absentait. Les Verdurin l'emmenaient voir les tombeaux de Dreux ou à Compiègne admirer, sur le conseil du peintre, des couchers de soleil en forêt, et on poussait jusqu'au château de Pierrefonds. Penser qu'elle pourrait visiter de vrais monuments avec moi, qui ai étudié l'architecture pendant 10 ans et qui suis tout le temps suppliée de mener à Beauvais ou à Saint-Loup-de-Nos des gens de la plus haute valeur, et ne le ferai que pour elle, et qu'à la place elle va avec les dernières des brutes s'extasier successivement devant les déjections de Louis-Philippe et devant celles de Viollet-le-Duc. Il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour cela, et que, même sans flair particulièrement fin, on ne choisit pas d'aller villégiaturer dans les latrines pour être plus à portée de respirer des excréments. Mais quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, hélas, sans lui permettre d'y aller, comme par hasard de son côté, car cela ferait un effet déplorable, disait-elle, il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre, l'après-midi, le soir, ce matin même. Le moyen, presque davantage, l'autorisation. Car enfin, l'indicateur et les trains eux-mêmes n'étaient pas faits pour des chiens. Si on faisait savoir au public, par voie d'imprimé, qu'à 8 heures du matin partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10 heures, c'est donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite, pour lequel la permission d'Odette était superflue. Et c'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir de rencontrer Odette, puisque des gens qui ne la connaissaient pas l'accomplissaient chaque jour, en assez grand nombre pour que cela valût la peine de faire chauffer des locomotives. En somme, elle ne pouvait tout de même pas l'empêcher d'aller à Pierrefonds s'il en avait envie. Or, justement, il sentait qu'il en avait envie, et que, s'il n'avait pas connu Odette, certainement il y serait allé. Il y avait longtemps qu'il voulait se faire une idée plus précise des travaux de restauration de Viollet-le-Duc, et par le temps qu'il faisait, il éprouvait l'impérieux désir d'une promenade dans la forêt de Compiègne. Ce n'était vraiment pas de chance qu'elle lui défendît le seul endroit qui le tentait aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y allait, malgré son interdiction, il pourrait la voir aujourd'hui même. Mais alors que, si elle eût retrouvé à Pierrefonds quelqu'un différent, elle lui eût dit joyeusement « Tiens, vous ici !» et lui aurait demandé d'aller la voir à l'hôtel où elle était descendue avec les Verdurin, au contraire, si elle y rencontrait, lui, Swann, elle serait froissée, se dirait qu'elle était suivie. Elle l'aimerait moins. Peut-être se détournerait-elle avec colère en l'apercevant. « Alors je n'ai plus le droit de voyager !» lui dirait-elle au retour, tandis qu'en somme c'était lui qui n'avait plus le droit de voyager. Il avait eu un moment l'idée, pour pouvoir aller à Compiègne et à Pierrefonds sans avoir l'air que ce fût pour rencontrer Odette, de s'y faire emmener par un de ses amis, le marquis de Forestel, qui avait un château dans le voisinage. Celui-ci, à qui il avait fait part de son projet sans lui en dire le motif, ne se sentait pas de joie et s'émerveillait que Swann, pour la première fois depuis 15 ans, consentît enfin à venir voir sa propriété et, puisqu'il ne voulait pas s'y arrêter, lui avait-il dit, lui promit au moins de faire ensemble des promenades et des excursions pendant plusieurs jours. Swann s'imaginait déjà là-bas avec M. de Forestel. Même avant d'y voir Odette, même s'il ne réussissait pas à y voir, quel bonheur il aurait à mettre le pied sur cette terre où, ne sachant pas l'endroit exact à tel moment de sa présence, il sentirait palpiter partout la possibilité de sa brusque apparition. Dans la cour du château, devenu beau pour lui parce que c'était à cause d'elle qu'il était allé le voir. Dans toutes les rues de la ville, qui lui semblaient romanesques. Sur chaque route de la forêt, rosée par un couchant profond et tendre. Asiles innombrables et alternatifs, où venaient simultanément se réfugier, dans l'incertaine ubiquité de ses espérances, son cœur heureux, vagabond et multiplié. « Surtout, dirait-il à M. de Forestel, prenons garde de ne pas tomber sur Odette et les Verdurin. Je viens d'apprendre qu'ils sont justement aujourd'hui à Pierrefonds. On a assez le temps de se voir à Paris. Ce ne serait pas la peine de le quitter pour ne pas pouvoir faire un pas les uns sans les autres. » Et son ami ne comprendrait pas pourquoi, une fois là-bas, il changerait 20 fois de projet, inspecterait les salles à manger de tous les hôtels de Compiègne, sans se décider à s'asseoir dans aucune de celles où pourtant, on n'avait pas vu trace de Verdurin, ayant l'air de rechercher ce qu'il disait vouloir fuir, et du reste le fuyant dès qu'il l'aurait trouvé, car s'il avait rencontré le petit groupe, il s'en serait écarté avec affectation, content d'avoir vu Odette et qu'elle l'eût vu, surtout qu'elle l'eût vu ne se souciant pas d'elle. Mais non, elle devinerait bien que c'était pour elle qu'il était là. Et quand M. de Forestel venait le chercher pour partir, il lui disait « Hélas, non, je ne peux pas aller aujourd'hui à Pierrefonds, Odette y est justement. » Et Swann était heureux, malgré tout, de sentir que, si seul de tous les mortels, il n'avait pas le droit en ce jour d'aller à Pierrefonds, c'était parce qu'il était en effet pour Odette quelqu'un de différent des autres, son amant, et que cette restriction apportée pour lui au droit universel de libre circulation n'était qu'une des formes de cet esclavage, de cet amour qui lui était si cher. Décidément, il valait mieux ne pas risquer de se brouiller avec elle, patienter, attendre son retour. Il passait ses journées penché sur une carte de la forêt de Compiègne, comme si ça avait été la carte du Tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefonds. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre, et si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas pour le cas où, revenue par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Justement, il entendait sonner à la porte cochère. Il lui semblait qu'on tardait à ouvrir. Il voulait éveiller le concierge, se mettait à la fenêtre pour appeler Odette si c'était elle, car malgré les recommandations qu'il était descendu faire plus de 10 fois lui-même, on était capable de lui dire qu'il n'était pas là. C'était un domestique qui rentrait. Il remarquait le vol incessant des voitures qui passaient, auxquelles il n'avait jamais fait attention autrefois. Il écoutait chacune venir au loin, s'approcher, dépasser sa porte sans s'être arrêtée, et porter plus loin un message qui n'était pas pour lui. Il attendait toute la nuit, bien inutilement, car les Verdurin ayant avancé leur retour, Odette était à Paris depuis midi. Elle n'avait pas eu l'idée de l'en prévenir. Ne sachant que faire, elle avait été passer sa soirée seule au théâtre et il y avait longtemps qu'elle était rentrée se coucher et dormait. C'est qu'elle n'avait même pas pensé à lui. Et de tels moments où elle oubliait jusqu'à l'existence de Swann étaient plus utiles à Odette, servaient mieux à lui attacher Swann que toute sa coquetterie. Car ainsi Swann vivait dans cette agitation douloureuse qui avait déjà été assez puissante pour faire éclore son amour le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurin et l'avait cherchée toute la soirée. Et il n'avait pas, comme j'eus à Combray dans mon enfance, des journées heureuses pendant lesquelles s'oublient les souffrances qui renaîtront le soir. Les journées, Swann les passait sans Odette, et par moments, il se disait que laisser une aussi jolie femme sortir ainsi seule dans Paris était aussi imprudent que de poser un écrin plein de bijoux au milieu de la rue. Alors, il s'indignait contre tous les passants comme contre autant de voleurs. Mais leur visage collectif et informe, échappant à son imagination, ne nourrissait pas sa jalousie. Il fatiguait la pensée de Swann, lequel, se passant la main sur les yeux, s'écriait « À la grâce de Dieu !» comme ceux qui, après s'être acharnés à étreindre le problème de la réalité du monde extérieur ou de l'immortalité de l'âme, accordent la détente d'un acte de foi à leur cerveau lassé. Mais toujours, la pensée de l'absente était indissolublement mêlée aux actes les plus simples de la vie de Swann. Déjeuner, recevoir son courrier, sortir, se coucher. Par la tristesse même qu'il avait à les accomplir sans elle. Comme ces initiales de Philibert le Beau que, dans l'église de Brou, à cause du regret qu'elle avait de lui, Marguerite d'Autriche entrelaça partout aux siennes. Certains jours, au lieu de rester chez lui, il allait prendre son déjeuner dans un restaurant à ses voisins dont il avait apprécié autrefois la bonne cuisine et où maintenant il n'allait plus que pour une de ces raisons à la fois mystiques et saugrenues qu'on appelle romanesques. C'est que ce restaurant, lequel existe encore, portait le même nom que la rue habitée par Odette, la Pérouse. Quelquefois, quand elle avait fait un court déplacement, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle songeait à lui faire savoir qu'elle était revenue à Paris. Et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la précaution de se couvrir à tout hasard d'un petit morceau emprunté à la vérité, qu'elle venait y rentrer à l'instant même par le train du matin. Ses paroles étaient mensongères. Du moins pour Odette, elles étaient mensongères, inconsistantes, n'ayant pas, comme si elles avaient été vraies, un point d'appui dans le souvenir de son arrivée à la gare. Même, elle était empêchée de se les représenter au moment où elle les prononçait par l'image contradictoire de ce qu'elle avait fait de tout différent au moment où elle prétendait être descendue du train. Mais dans l'esprit de Swann, au contraire, ces paroles qui ne rencontraient aucun obstacle venaient s'incruster et prendre l'inamovibilité d'une vérité si indubitable que, si un ami lui disait être venu par ce train et ne pas avoir vu Odette, il était persuadé que c'était l'ami qui se trompait de jour ou d'heure, puisque son dire ne se conciliait pas avec les paroles d'Odette. Celles-ci ne lui eussent paru mensongères que s'il s'était d'abord défié qu'elles le fussent. Pour qu'il crût qu'elle mentait, un soupçon préalable était une condition nécessaire. C'était d'ailleurs aussi une condition suffisante. Alors, tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. L'entendait-il citer un nom, c'était certainement celui d'un de ses amants. Une fois cette supposition forgée, il passait des semaines à se désoler. Il s'aboucha même une fois avec une agence de renseignement pour savoir l'adresse, l'emploi du temps de l'inconnu qui ne le laisserait respirer que quand il serait parti en voyage et dont il finit par apprendre que c'était un oncle d'Odette mort depuis 20 ans. Bien qu'elle ne lui permît pas en général de la rejoindre dans des lieux publics, disant que cela ferait jaser, il arrivait que dans une soirée où il était invité comme elle, chez Forcheville, chez le peintre ou à un bal de charité dans un ministère, il se trouvât en même temps qu'elle. Il la voyait, mais n'osait pas rester, de peur de l'irriter en ayant l'air d'épier les plaisirs qu'elle prenait avec d'autres, et qui, tandis qu'il rentrait solitaire, qu'il allait se coucher, anxieux comme je devais l'être moi-même quelques années plus tard, les soirs où il viendrait dîner à la maison, à Combray, lui semblait-il limité parce qu'il n'en avait pas vu la fin. Et une fois ou deux, il connut par de tels soirs de ces joies qu'on serait tenté, si elle ne subissait avec tant de violence le choc en retour de l'inquiétude brusquement arrêtée, d'appeler des joies calmes, parce qu'elles consistent en un apaisement. Il était allé passer un instant à un raout chez le peintre et s'apprêtait à le quitter. Il y laissait Odette, muée en une brillante étrangère, au milieu d'hommes à qui ses regards et sa gaieté n'étaient pas pour lui, semblait parler de quelque volupté qui serait goûtée là ou ailleurs, peut-être au bal des incohérents où il tremblait qu'elle n'allât ensuite, et qui causait à Swann plus de jalousie que l'union charnelle même, parce qu'il l'imaginait plus difficilement. Il était déjà prêt à passer la porte de l'atelier quand il s'entendait rappeler par ces mots qui, en retranchant de la fête cette fin qui l'épouvantait, la lui rendait rétrospectivement innocente, faisait du retour d'Odette une chose non plus inconcevable et terrible, mais douce et connue, et qui tiendrait à côté de lui, pareil à un peu de sa vie de tous les jours, dans sa voiture, et dépouillait Odette elle-même de son apparence trop brillante et gaie, montrait que ce n'était qu'un déguisement qu'elle avait revêtu un moment, pour lui-même, non en vue de mystérieux plaisirs, et duquel elle était déjà lasse. Par ces mots qu'Odette lui jetait, comme il était déjà sur le seuil, « Vous ne voudriez pas m'attendre 5 minutes. Je vais partir, nous reviendrions ensemble, vous me ramèneriez chez moi. » Il est vrai qu'un jour, Forcheville avait demandé à être ramené en même temps, mais comme, arrivé devant la porte d'Odette, il avait sollicité la permission d'entrer aussi, Odette lui avait répondu en montrant Swann « Ah, cela dépend de ce monsieur-là, demandez-lui. Enfin, entrez un moment si vous voulez, mais pas longtemps, parce que je vous préviens qu'il aime causer tranquillement avec moi et qu'il n'aime pas beaucoup qu'il y ait des visites quand il vient. Ah, si vous connaissiez cet être-là autant que je le connais. N'est-ce pas, my love? Il n'y a que moi qui vous connaisse bien. » Et Swann était peut-être encore plus touché de l'avoir ainsi lui adressé en présence de Forcheville non seulement ses paroles de tendresse, de prédilection, mais encore certaines critiques comme « Je suis sûre que vous n'avez pas encore répondu à vos amis pour votre dîner de dimanche. N'y allez pas si vous ne voulez pas, mais soyez au moins polis. » Ou « Avez-vous laissé seulement ici votre essai sur Vermeer pour pouvoir l'avancer un peu demain ? Quel paresseux ! Je vous ferai travailler, moi !» qui prouvait qu'Odette se tenait au courant de ses invitations dans le monde et de ses études d'art, qu'ils avaient bien une vie à eux deux. Et en disant cela, elle lui adressait un sourire au fond duquel il la sentait tout à lui. Alors, à ces moments-là, pendant qu'elle leur faisait de l'orangeade, tout d'un coup, comme quand un réflecteur mal réglé d'abord promène autour d'un objet, sur la muraille, de grandes ombres fantastiques, qui viennent ensuite se replier et s'anéantir en lui, toutes les idées terribles et mouvantes qu'il se faisait d'Odette s'évanouissaient, rejoignaient le corps charmant que Swann avait devant lui. Il avait le brusque soupçon que cette heure passée chez Odette, sous la lampe, n'était peut-être pas une heure factice, à son usage à lui, destiné à masquer cette chose effrayante et délicieuse à laquelle il pensait sans cesse, sans pouvoir bien se la représenter, une heure de la vraie vie d'Odette, de la vie d'Odette quand lui n'était pas là, avec des accessoires de théâtre et des fruits de carton, mais était peut-être une heure pour de bon de la vie d'Odette, que s'il n'avait pas été là, elle eût avancé à Forcheville le même fauteuil et lui eût versé non un breuvage inconnu, mais précisément cette orangeade. Que le monde habité par Odette n'était pas cet autre monde effroyable et surnaturel où il passait son temps à la situer et qui n'existait peut-être que dans son imagination, mais l'univers réel, ne dégageant aucune tristesse spéciale, comprenant cette table où il allait pouvoir écrire et cette boisson à laquelle il lui serait permis de goûter, tous ces objets qu'il contemplait avec autant de curiosité et d'admiration que de gratitude, car si en absorbant ses rêves il l'en avait délivré, eux, en revanche, s'en étaient enrichis. Ils lui en montraient la réalisation palpable, et ils intéressaient son esprit. Ils prenaient du relief devant ses regards, en même temps qu'ils tranquillisaient son cœur. Ah, si le destin avait permis qu'il pût n'avoir qu'une seule demeure avec Odette, et que chez elle, il fût chez lui, si en demandant au domestique ce qu'il y avait à déjeuner, c'eût été le menu d'Odette qu'il avait appris en réponse. Si, quand Odette voulait aller le matin se promener avenue du Bois de Boulogne, son devoir de bon mari l'avait obligé, n'eût-il pas envie de sortir à l'accompagner, portant son manteau quand elle avait trop chaud? Et le soir après le dîner, si elle avait envie de rester chez elle en déshabillé, s'il avait été forcé de rester là près d'elle, à faire ce qu'elle voudrait? Alors, combien tous les riens de la vie de Swann qui lui semblaient si tristes, au contraire parce qu'ils auraient en même temps fait partie de la vie d'Odette, auraient pris même les plus familiers, et comme cette lampe, cette orangeade, ce fauteuil qui contenait tant de rêves, qui matérialisait tant de désirs, une sorte de douceur surabondante et de densité mystérieuse. Pourtant, il se doutait bien que ce qu'il regrettait ainsi, c'était un calme, une paix qui n'aurait pas été pour son amour une atmosphère favorable. Quand Odette cesserait d'être pour lui une créature toujours absente, regrettée, imaginaire, quand le sentiment qu'il aurait pour elle ne serait plus ce même trouble mystérieux que lui causait la phrase de la sonate, mais de l'affection, de la reconnaissance, quand s'établiraient entre eux des rapports normaux qui mettraient fin à sa folie et à sa tristesse, alors sans doute les actes de la vie d'Odette lui paraîtraient peu intéressants en eux-mêmes, comme il avait déjà eu plusieurs fois le soupçon qu'ils étaient, par exemple le jour où il avait lu à travers l'enveloppe la lettre adressée à Forcheville. Considérant son mal avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude, il se disait que, quand il serait guéri, ce que pourrait faire Odette lui serait indifférent. Mais du sein de son état morbide, à vrai dire, il redoutait à l'égal de la mort une telle guérison qui eût été en effet la mort de tout ce qu'il était actuellement. Après ces tranquilles soirées, les soupçons de Swann étaient calmés. Il bénissait Odette et le lendemain, dès le matin, il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux parce que ses bontés de la veille avaient excité ou sa gratitude ou le désir de les voir se renouveler ou un paroxysme d'amour qui avait besoin de se dépenser. Mais à d'autres moments, sa douleur le reprenait. Il s'imaginait qu'Odette était la maîtresse de Forcheville et que, quand tous deux l'avaient vue du fond du landau des Vers du Rhin, au bois, la veille de la fête de Chatou où il n'avait pas été invité, la prier vainement, avec cet air de désespoir qu'avait remarqué jusqu'à son coucher, de revenir avec lui, puis s'en retourner de son côté, seule et vaincue. Elle avait dû avoir pour le désigner à Forcheville et lui dire « Hein, ce qu'il rage !» Les mêmes regards brillants, malicieux, abaissés et sournois, que le jour où celui-ci avait chassé sa niette de chez les Vers du Rhin. Alors Swann la détestait. « Mais aussi, je suis trop bête, » se disait-il. « Je paie avec mon argent le plaisir des autres. Elle fera tout de même bien de faire attention et de ne pas trop tirer sur la corde, car je pourrais bien ne plus rien donner du tout. En tout cas, renonçons provisoirement aux gentillesses supplémentaires. Pensez que pas plus tard qu'hier, comme elle disait avoir envie d'assister à la saison de Bayreuth, j'ai eu la bêtise de lui proposer de louer un des jolis châteaux du roi de Bavière pour nous deux dans les environs. Et d'ailleurs, elle n'a pas paru plus ravie que cela. Elle n'a encore dit ni oui ni non. Espérons qu'elle refusera, grand Dieu, entendre du Wagner pendant 15 jours avec elle qui s'en soucie comme un poisson d'une pomme, ce serait gai. » Et sa haine, tout comme son amour ayant besoin de manifester et d'agir, Il se plaisait à pousser de plus en plus loin ses imaginations mauvaises, parce que, grâce aux perfidies qu'il prêtait à Odette, il la détestait davantage, et pourrait, si, ce qu'il cherchait à se figurer, elle se trouvait être vraie, avoir une occasion de la punir et d'assouvir sur elle sa rage grandissante. Il alla ainsi jusqu'à supposer qu'il allait recevoir une lettre d'elle, où elle lui demanderait de l'argent pour louer ce château près de Bayreuth. Mais en le prévenant qu'il n'y pourrait pas venir, parce qu'elle avait promis à Forcheville et au Verdurin de les inviter. Ah, comme il eût aimé qu'elle pût avoir cette audace! Quelle joie il aurait à refuser, à rédiger la réponse vengeresse dont il se complaisait à choisir, à énoncer tout haut les termes, comme s'il avait reçu la lettre en réalité. Or, c'est ce qui arriva le lendemain même. Elle lui écrivit que les Verdurin et leurs amis avaient manifesté le désir d'assister à ces représentations de Wagner et que, s'il voulait bien lui envoyer cet argent, elle aurait enfin, après avoir été si souvent reçue par eux, le plaisir de les inviter à son tour. De lui, elle ne disait pas un mot. Il était sous-entendu que leur présence excluait la sienne. Alors, cette terrible réponse dont il avait arrêté chaque mot la veille, sans oser espérer qu'elle pourrait le servir jamais, il avait la joie de la lui faire porter. Hélas, il sentait bien qu'avec l'argent qu'elle avait, ou qu'elle trouverait facilement, elle pourrait tout de même louer à Bayreuth, puisqu'elle en avait envie, elle qui n'était pas capable de faire de différence entre Bac et Clapisson. Mais elle y vivrait malgré tout plus chichement. Pas moyen, comme s'il eût envoyé cette fois quelques billets de 1000 francs, d'organiser chaque soir dans un château de ces soupers fins après lesquels elle se serait peut-être passé la fantaisie, qu'il est possible qu'elle n'eût jamais eue encore, de tomber dans les bras de Forcheville. Et puis du moins, ce voyage détesté, ce n'était pas lui, Swann, qui le paierait. Ah, s'il avait pu l'empêcher! Si elle avait pu se fouler le pied avant de partir! Si le cocher de la voiture qui l'emmènerait à la gare avait consenti, à n'importe quel prix, à la conduire dans un lieu où elle fut restée quelque temps séquestrée! Cette femme perfide, aux yeux émaillés par un sourire de complicité adressé à Forcheville, qu'Odette était pour Swann depuis 48 heures. Mais elle ne l'était jamais pour très longtemps. Au bout de quelques jours, le regard luisant et fourbe perdait de son éclat et de sa duplicité. Cette image d'une Odette exécrée, disant à Forcheville « ce qu'il rage !» commençait à pâlir, à s'effacer. Alors, progressivement, reparaissait et s'élevait en brillant doucement le visage de l'autre Odette, de celle qui adressait aussi un sourire à Forcheville, mais un sourire où il n'y avait pour Swann que de la tendresse, quand elle disait « Ne restez pas longtemps, car ce monsieur-là n'aime pas beaucoup que j'ai des visites quand il a envie d'être auprès de moi. Ah, si vous connaissiez cet être-là autant que je le connais !» Ce même sourire qu'elle avait pour remercier Swann de quelques traits de sa délicatesse qu'elle prisait si fort, de quelques conseils qu'elle lui avait demandés dans une de ces circonstances graves où elle n'avait confiance qu'en lui. Alors, à cette Odette-là, il se demandait comment il avait pu écrire cette lettre outrageante, dont sans doute jusqu'ici elle ne l'eût pas cru capable, et qui avait dû le faire descendre du rang élevé, unique, que par sa bonté, sa loyauté, il avait conquis dans son estime. Il allait lui devenir moins cher, car c'était pour ces qualités-là, qu'elle ne trouvait ni à Forcheville ni à aucun autre, qu'elle l'aimait. C'était à cause d'elle qu'Odette lui témoignait si souvent une gentillesse qu'il comptait pour rien au moment où il était jaloux, parce qu'elle n'était pas une marque de désir, et prouvait même plutôt de l'affection que de l'amour, mais dont il recommençait à sentir l'importance au fur et à mesure que la détente spontanée de ses soupçons, souvent accentuée par la distraction que lui apportait une lecture d'art ou la conversation d'un ami, rendait sa passion moins exigeante de réciprocité.